France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Il est 15h et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous commencez un mail sans parvenir à le finir. Vous entamez une réunion sans réussir à vous y intéresser. Vos paupières sont lourdes, vos mouvements sont là, votre ventre est plein. Sans aucun doute, vous êtes en pleine digestion et une petite sieste ne vous ferait pas de mal. Mais où ? Comment ? Et puis, pas le temps. Le paradoxe est là, on aurait tous besoin d'une bonne sieste, mais rien n'est prévu pour et tout est même fait contre, au moins depuis vos 4 ans. Mais pourquoi ? Pourquoi 15h, ce n'est plus l'heure de la sieste ?
Chez les jeunes élèves, les classes d'après-midi, somnolentes ou dissipées, se sont toujours révélées moins productrices que celles du matin. À l'école primaire de Vanves, qui tient en France le rôle d'école pilote, une expérience est en cours à l'instigation du docteur Max Forestier. La sieste a été promue au rang de discipline pédagogique. Grâce à un ingénieux système de lits collectifs pliants, la classe, dès la rentrée, se transforme en dortoir. Quelques minutes suffisent. Chaque après-midi, depuis un an, 38 fillettes de 5 à 8 ans consacrent l'heure qui suit le déjeuner au sommeil. Les rideaux sont tirés pour la pénombre et une musique douce est dispensée par un électrophone. Et cette heure perdue est en réalité une heure gagnée. Après la sieste, les élèves sont sages, décontractés. La santé des enfants est améliorée par ce régime qui rétablit l'équilibre perturbé par les conditions de la vie moderne.
Bonjour Guillaume Garnier.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'INSPE de Poitiers, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Vous êtes docteur en histoire moderne et contemporaine et vous êtes aussi l'auteur de L'oubli des peines, une histoire du sommeil 1700-1850 qui est paru aux presses universitaires de Rennes. C'était en 2013 mais ça a été réédité en 2019. Est-ce que vous regrettez l'année 1958 et l'instauration, je ne crois pas que ça a duré très longtemps dans cette école de Vanves, d'une sieste comme discipline pédagogique?
Alors, moi, je suis pas à même de juger sur l'intérêt pédagogique de cette sieste, mais en tout cas, bon, c'est une certitude que cet intérêt est vraiment quand même surprenant, puisque bon, généralement, ces siestes étaient plutôt réservées à des enfants plus jeunes, et puis d'ailleurs, ça l'est encore maintenant dans les écoles. Mais bien entendu, là-dessus, il y a quand même quelque chose de très intéressant à noter, c'est qu'il y a quand même une volonté depuis ces dernières années de, si vous voulez, de donner quand même de mettre en lumière les bienfaits de la sieste.
Ça, c'est un changement dans l'histoire. Est-ce que, quand vous avez travaillé sur le sommeil, je rappelle que vous avez notamment travaillé sur la période allant de 1700 à 1850, est-ce que vous avez eu vraiment des traces de la sieste? Est-ce que vous avez eu accès à des sources qui travaillaient, permettaient d'avoir accès à ces heures de sommeil en journée?
Alors, le souci de travailler sur le sommeil comme un objet d'histoire, c'est justement d'identifier des sources qui nous permettent, pendant toutes les périodes qui nous intéressent, de pouvoir parler le plus objectivement possible du sommeil. Et pour ce qui concerne la sieste, le souci est qu'on dispose de sources, mais qui peuvent être un petit peu biaisées, puisque ce sont plutôt des sources normatives, qui donnent un avis sur la sieste, plutôt que sur les pratiques réelles de la sieste. À titre d'exemple, on a surtout des traités de piété ou des traités de civilité, hein, un traité de civilité et de bienséance, hein, l'un des plus célèbres, celui de Jean-Baptiste de La Salle notamment, qui parle de la sieste comme un temps qui est totalement aberrant, puisque les autorités religieuses et puis même d'ailleurs les médecins les rejoignent pour penser que le temps du sommeil c'est uniquement le temps de la nuit. En fait, on part sur des principes où l'alternance jour-nuit justement définit l'alternance veille-sommeil. Donc ce qui fait que à partir de ça, on ne peut pas affirmer que la sieste sur la période que j'ai étudiée, c'est-à-dire la période pré-industrielle, en gros jusqu'au milieu du 19e siècle, on ne peut pas affirmer qu'il n'y avait pas des phénomènes de sieste. En tout cas, en tant que pratique quotidienne, je ne pense pas que la sieste était vraiment très répandue. Par contre, ponctuellement, lors d'épisodes de chaleur ou effectivement à la suite de certains travaux assez pénibles, on a certains travailleurs, ouvriers, notamment agriculteurs, paysans, pouvaient avoir recours à la sieste. Parce que justement, il y a une prégnance quand même de ces sources normatives qui définissent la sieste comme un temps associé à la paresse, hein, c'est-à-dire même associé à la paresse et un temps suspect, puisque si on dort en plein jour, c'est qu'on n'a pas dormi la nuit, puisque si on fait référence à ce qui est toujours dit, c'est-à-dire le temps de sommeil, c'est la nuit. Et donc, à ce moment-là, on n'a pu avoir qu'une activité illicite, ou en tout cas une activité immorale pendant la nuit.
C'est intéressant tout ce que vous dites, Guillaume Garnier, parce qu'en fait, il y a plein de présupposés en fait, qui sont quand même en jeu. Déjà, l'identification entre la nuit et le sommeil, et entre le jour et l'activité, mais aussi ces deux présupposés qui sont presque opposés quant à la sieste. D'une part, la sieste qui serait un moment de repos après un moment de productivité. On se repose par exemple en journée quand il fait très chaud parce que le corps est plus mis à l'épreuve, donc il est plus actif, donc il faudrait qu'il se repose. Mais d'un autre côté, la sieste, c'est aussi un moment de fainéantise. Et on voit bien que ce qui est à l'œuvre, c'est à la fois des dimensions en fait morales, mais aussi biologiques. Comment la sieste en fait cristallise cette articulation entre des besoins physiologiques, mais aussi en fait tout un ensemble d'injonctions morales.
Alors en fait, pour bien penser le sommeil de cette période, hein, en gros en 18e et milieu 19e siècle, hein, sans que ça soit clairement affiché comme une fin vraiment milieu 19e siècle, il faut bien séparer tout ce qui dépend du physiologique de ce qui dépend de la pratique soumise à effectivement des préceptes religieux et médicaux. Mmh. En définitive, le sommeil de cette époque, il est pensé d'abord, surtout, comme un temps de contrôle sur les corps de cette période. Mmh. En gros, le corps endormi, c'est un corps qu'on n'a pas à surveiller, c'est un corps qui n'est pas justement issu d'une tentation, c'est un corps qui bien entendu a certaines vulnérabilités, on y reviendra un petit peu plus tard peut-être, mais en gros, il y a quand même un enjeu qui est vraiment important sur cette période, c'est de contrôler vraiment tous les débordements possibles.
Donc dormir, c'est mettre véritablement en veille, enfin en pause, tout ce qui pourrait mettre en danger le corps, mais tout ce qu'il représente aussi comme danger, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il faut bien se dire que nous sommes aussi dans des sociétés qui ne maîtrisent pas totalement la lumière artificielle, qui n'en possèdent pas, tous les pans de la population n'en possèdent pas, et en fait, la nuit, c'est le temps de l'inconnu, c'est le temps où on redessine un petit peu ses rapports au sens, parce qu'on ne voit pas, c'est une certitude, on ne voit pas très bien, même avec certaines lumières artificielles, et à partir du moment où on ne voit pas, à partir du moment où on est dissimulé, que le corps est dissimulé, à partir du moment où on est en reclus dans l'intimité, eh bien, à ce moment-là, on peut imaginer tout entre fantasmes et réalité de tout ce qui peut se passer. Alors, en tout cas, dans une société très christianisée, c'est bien entendu, c'est la peur du démon, c'est la peur des tentations, c'est les peurs sataniques, hein, les sabbats des sorcières, la sorcellerie s'exerçait en grande partie. En tout cas, dans les mentalités, on avait le sentiment que c'était plutôt nocturne. Donc, toutes ces tentations, elles vont se matérialiser au moment où le corps est isolé de la communauté et au moment où le corps, justement, peut s'exprimer en étant globalement caché.
Et c'est aussi peut-être ce qui explique que les injonctions morales contre la sieste, en tout cas qui condamnent la sieste à cette époque, mais on pourrait dire en fait encore aujourd'hui, puisque l'archive qu'on a entendue de la sieste comme discipline pédagogique, c'est quelque chose qui ne perdure pas du tout, même si on s'accorde pour dire que la sieste a des bienfaits sur le corps, c'est pas du tout une pratique qu'on a au travail, c'est une pratique qu'on n'a plus à partir de la moyenne section en maternelle. Donc ces injonctions qu'il y a sur la sieste, on les retrouve encore aujourd'hui et elles se logent déjà à cette période-là sur ce qu'on pense du sommeil, à savoir que c'est un moment où on va se livrer en fait à quelque chose d'intime et en journée, cela est difficilement entendable.
Oui, c'est ça. Et si on doit ajouter au regard que portaient les autorités religieuses sur la sieste, on peut aussi ajouter le regard de certains médecins. Alors, il y a peu de médecins qui ont effectivement travaillé sur la sieste, hein, puisque la plupart des traités de médecine que j'ai consultés, notamment sur le 18e et 19e siècle, parlent plutôt du sommeil nocturne, hein, puisqu'on l'associe à ce moment-là un temps de sommeil assez long. Mais en tout cas, certains médecins vont même jusqu'à dire que de dormir la journée fait plus de mal au corps, hein, c'est-à-dire que on interrompt la digestion, on risque de perdre même en intelligence, on a pu le lire, en moralité. Et on risque aussi petit à petit de vouloir s'adonner de plus en plus à la paresse. Donc derrière cette idée d'un sommeil qui pourrait justement être réparateur si on n'a pas bien dormi la nuit, eh bien se cache quand même et puis persiste dans les représentations pendant très très longtemps d'un sommeil qui peut être dangereux peut-être de dormir la journée.
Ce qui est intéressant, ça veut dire que est-ce qu'on en est presque à se demander, Guillaume Garnier, c'est est-ce que la sieste est encore considérée en fait comme du sommeil ? Parce que le sommeil serait de fait réparateur et serait de fait nécessaire pour le corps, alors que la sieste serait mauvaise pour le corps et même pour une forme de morale. Est-ce qu'on peut en venir à dire que la sieste finalement n'est pas une forme de repos, mais au contraire une forme de débauche ?
Alors à cette époque, globalement, oui, on peut dire que justement, on nie totalement le besoin physiologique. Hein. On va nier totalement ce besoin en disant voilà, il se peut qu'on ait vraiment besoin de dormir parce que on a été dans la nuit dérangé par des bruits ou même des problèmes avec on a une population qui est très largement agricole à cette époque, donc on a pu avoir des problèmes avec les animaux ou quoi que ce soit. Donc ce qui veut dire qu'on nie totalement l'idée de besoin de sommeil sur ce temps-là pour l'associer à un mode de vie qui est obligatoirement lié à la débauche, puisque bon, bien entendu, derrière les enjeux de contrôle, ce que je disais tout à l'heure, il y a des contrôles religieux, mais aussi des contrôles de surveillance des nuits qui peuvent être prolongées hein, dans les lieux de cabaret ou dans les lieux de sociabilité. Donc c'est vrai que ce temps-là, on ne va pas le considérer comme un temps de repos.
Bon, il faut quand même préciser, Guillaume Garnier, que la sieste, parce qu'on n'a pas encore, on n'est pas encore revenu sur ce terme-là, on parle de sommeil, on se demande si ça relève du sommeil en tant que tel, mais la sieste, d'où vient ce terme, en fait? Est-ce que c'est un terme non seulement qu'on croise peu, mais en plus qu'on emploie peu, dont l'origine est incertaine?
Alors, à l'époque que j'ai étudié, le mot sieste, on le rencontre plutôt chez les Espagnols en siesta. Et dans les traités de médecine, on rencontre le mot de méridienne. Le mot de méridienne, donc, qui voulait tout simplement dire que c'était un temps de sommeil qui était préconisé, enfin qui pouvait être accepté, on va pas dire préconisé, mais qui pouvait être accepté dans certains milieux, dans certains pays plutôt, certains pays méditerranéens où il faisait chaud, et on accordait l'idée que, bah voilà, face à la pesanteur de la chaleur, on pouvait avoir recours à un temps donc de repos hein, cette fois, parce que bon, les activités pouvaient être pénibles avant de se relancer dans certaines activités. Donc là, on rencontre plutôt le terme de méridienne dans les dictionnaires de médecine.
Et revenons sur cette idée aussi de sommeil ou même de nuit ou même de sieste. Ce que la sieste nous révèle, c'est que ces temps-là ne sont pas du tout des temps en fait de liberté pour l'individu, mais au contraire sont des moments très contrôlés. Ça, c'est quand même quelque chose de frappant. C'est-à-dire que s'il y a une condamnation de la sieste ou alors une valorisation, c'est qu'on a une certaine idée de ce que devrait être un bon sommeil pour l'individu, ce que devrait être un bon repos ou un bon maintien du corps.
Oui, ce qui frappe sur cette période, hein, moi j'ai essayé de définir ce qu'on appelle une culture commune de sommeil. Hein, donc on voit bien que derrière ça, c'est pas un aspect biologique, hein, c'est vraiment derrière des pratiques qui sont très très largement encadrées. Alors après, bien entendu, avec toutes les nuances possibles des individualités et des possibilités de s'émanciper de tous ces discours, mais on a des pratiques qui sont très très largement qui sont vraiment très très largement discutées et sur lesquelles on a beaucoup d'écrit justement qui permettent de savoir un petit peu ce qu'on attendait d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard en termes de niveau de sommeil de cette époque. On peut retrouver des durées associées soit à l'âge de l'individu, soit à son sexe. Donc en gros, hein, pour si on prend les adultes,
quelles sont les injonctions que j'ai à suivre?
Voilà, c'est ça. Donc si on a un adulte, en gros, on estime que 7 heures de sommeil pour n'importe quel adulte masculin, pour l'époque, ça suffit très très largement. Donc là, on est véritablement sur, si on dépasse les 7 heures, sur un homme qui aurait pu être suspect ou qui, justement, pourrait s'être habitué à des temps de paresse. Après, derrière ça, pour les adultes de sexe féminin, cette fois, si on lit les traités de médecine, les médecins vont considérer que le tempérament des femmes, elles sont un peu plus fragiles et à ce moment-là, elles peuvent avoir un petit peu besoin de sommeil, un peu plus besoin de sommeil. Donc, on peut aller jusqu'à 8 heures et 9 heures de sommeil. Donc là, on a vraiment déjà une dichotomie entre les hommes et les femmes.
Oui, il y a quand même au moins 2-3 heures de différence, ce qui n'est pas rien. Une à 2 heures de différence.
Oui, c'est ça. C'est très genré et on retrouve ça souvent parfois dans les traités de civilité aussi. On le retrouve, c'est-à-dire que on a le sentiment que les femmes peuvent se lever un petit peu plus tard que les hommes, que c'est pour leur santé, c'est quand même un petit peu plus bénéfique. Et donc, au-delà de la question du genre, après, on a une question d'âge, bien entendu. Donc, on reconnaît qu'un bébé, jusqu'à 1, 2 ou 3 ans, on peut aller jusqu'à 20 heures de sommeil, 18 à 20 heures. Et puis, en fait, plus on monte dans l'âge, moins l'enfant, l'adolescent, a besoin d'heures de sommeil pour arriver à partir de 14-15 ans à un sommeil de 10 heures. Et puis, au passage à l'âge adulte, à ce moment-là, il arrive à 7 heures de sommeil. Donc, en gros, on reconnaît quand même que l'enfant a besoin de sommeil. Donc, on a assez peu de sources, justement, sur le sommeil de l'enfant pendant cette période-là, puisque lui, il doit bien faire des siestes. Mm-hmm. Donc là, il y a une certitude quand même qu'on laissait les enfants faire des siestes. Même d'ailleurs, c'est aussi un moyen d'avoir pour les femmes les bras libres pendant que le bébé ou l'enfant dormait. Mm-hmm. Voilà, on a une question d'âge. Et puis après, on arrive sur l'âge de la vieillesse, de la décrépitude. Alors là, on considère que le vieillard dort en fait assez peu. On estime qu'il dort 5 à 6 heures, mais avec plein de périodes, si vous voulez, entrecoupées. Le sommeil est très haché, des périodes où pas vraiment de réveil, ce qui fait qu'on a le sentiment qu'il dort très très longtemps, mm-hmm. mais qu'au final, on va dormir beaucoup moins à l'âge. Alors, ils appellent ça l'âge de la décrépitude. Alors, il n'y a pas de nombre d'années, mais globalement, les dernières années les dernières années de vie.
Et est-ce que c'est les traités dont vous parlez, les sources sur lesquelles vous êtes appuyé, Guillaume Garnier, est-ce que ce sont des sources descriptives, en fait, qui s'en tiennent véritablement à des constats, en fait, à des expériences, à des descriptions, ou est-ce que ce sont des écrits prescriptifs qui indiquent ce qu'il faut faire ou pas?
Alors oui, pour les deux sources normatives qui sont les traités de médecine et qui d'ailleurs se rejoignent avec les traités de piété hein, qui sont des sources plutôt religieuses, dans les deux cas on prescrit justement des comportements à adopter, hein, que ce soit dans les positions ou dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est-à-dire la durée du sommeil, c'est-à-dire que on le dit clairement. Il faut se lever très tôt. Comme il faut se lever très tôt, il faut se coucher de manière à ce qu'on puisse avoir nos 7 heures de sommeil. Donc, sur les traités de piété, on s'appuie plutôt sur des préceptes moraux, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire le risque de tentation, le fait de bien réaliser ses prières au moment de se coucher pour remercier Dieu de l'avoir de nous avoir laissé en vie cette journée, et puis pour nous préparer aux tentations de la nuit. Et puis même chose au matin, quand on se réveille, ne pas oublier les prières. Donc là, on est sur des prescriptions. On n'explique pas vraiment pourquoi on a besoin que de 7 heures. C'est le boulot plutôt des médecins qui vont s'appuyer alors sur des principes plus physiologiques, alors généralement hérités de l'Antiquité. Alors ils essayent d'expliquer grossièrement un petit peu comment fonctionne le sommeil, en gros des esprits qui circulent dans notre corps, c'est ce qu'on appelle les esprits animaux hein, en gros hein, pour le XVIIe siècle, à partir du XVIIe siècle et XVIIIe siècle, qui circuleraient dans notre corps. Et pour expliquer ça simplement, en fait ils disparaissent un petit peu au moment de la journée, il faut se reposer hein, sur un temps suffisant pour qu'ils puissent se régénérer et puis être à nouveau actifs lors de la journée, mais il faut pas se reposer trop non plus parce que au contraire, il pourrait ne pas profiter de ce repos suffisamment et se dégénérer un peu.
C'est frappant quand on vous écoute, Guillaume Garnier, c'est que véritablement la perception du sommeil et notamment de la sieste a complètement changé de ce point de vue-là, puisque aujourd'hui, en fait, ce qui nous guette, et c'est ce qu'on a entendu dans l'archive de 1958, ce n'est pas un excès de sommeil, mais plutôt un manque de sommeil. Et là-dessus, ça explique aussi la différence, en fait, de l'évolution de la conception de la sieste, même si elle n'est pas permise aujourd'hui. On peut se souvenir d'ailleurs, dans les actualités, il y a quelques mois, d'un éboueur qui avait été licencié parce que photographié en train de faire la sieste sur son lieu de travail. Même si la sieste n'est pas valorisée, néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui a complètement évolué autour du sommeil et des bonnes doses de sommeil. Là, on risque de manquer d'heures de repos, alors qu'avant, on pouvait pâtir d'en avoir trop. C'est assez frappant quand même.
Oui, alors on peut pâtir d'en avoir trop. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'on en avait trop, puisque les activités de la journée, en schématisant un petit peu, elles s'arrêtaient au moment de l'interruption au moment du coucher de soleil, excusez-moi. Mm-hmm. Mais on avait quand même un temps de sociabilité. On a pu retrouver dans les sources des moments de sociabilité qui étaient beaucoup plus développés que ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'un coucher un petit peu plus tardif que ce qu'on aurait pu appréhender en fonction du coucher du soleil et du lever du soleil. Donc, globalement, on avait quand même des temps de sociabilité. Et puis, comme je disais tout à l'heure, quand on lit les traités qui nous disent qu'il faut à peu près 7 heures de sommeil. Si on regarde un petit peu les sondages que j'ai pu réaliser à partir d'archives judiciaires sur la durée du sommeil, en gros, des masses populaires pendant cette période, mm-hmm. on est aux alentours de 7 heures de sommeil. Ce qui veut dire qu'on était aussi capable, à cette période-là, de repousser le temps de sommeil. Rien n'empêchait les individus d'aller se coucher dès que la nuit tombait. Mais on avait besoin quand même de ces temps de sociabilité. Et donc, on réduisait quand même un petit peu son sommeil.
On va écouter une autre archive, Guillaume Garnier. C'est une archive de 1944, car quelque chose a changé. C'est la révolution industrielle et désormais la nuit n'est pas seulement faite pour dormir, mais aussi pour travailler.
Paris s'assoupit. Et terminant sa course, la dernière rame du métro abandonne ses voyageurs attardés. C'est le gardien de la paix qui regagne son foyer. C'est l'actrice somnolente après le dernier acte. C'est le vieil habitué des clubs, Bridger impénitent. Ils passent tous, inattentifs, devant la caissière qui voit enfin le bout de ses comptes. Paris dort. Mais derrière les grilles cadenassées, la vie de la cité troglodyte se poursuit en veilleuse. En effet, dans les sous-stations, l'électricien de service qui manœuvre les commutatrices laisse suffisamment de courant pour alimenter les travaux de nuit. Car Paris travaille encore. Sous la place de l'hôtel de ville, une équipe d'hygiène fait merveille. Installée sur un pont roulant, échafaudage rudimentaire qui se déplace lentement le long des quais, les ouvriers grattent et brossent la paroi de faïence de la station. Ils procéderont aussi à la désinfection des voies et des quais qui portent la trace de tant de pas. Et demain, les voyageurs retrouveront les wagons pimpants et clairs.
C'était donc une archive du Journal National du 28 janvier 1944. Effectivement, jusque-là, Guillaume Garnier, nous avons parlé de la nuit comme d'un temps de sommeil où certes, il pouvait y avoir d'autres activités, mais ce qui va tout changer par rapport à notre sujet du jour qui est la sieste, c'est quand même de travailler la nuit. Quand on travaille la nuit, mais d'ailleurs même quand on fait autre chose la nuit, la fête, des veillées ou que sais-je encore, quand on passe la nuit à ne pas dormir, à être insomniaque, il faut bien qu'on fasse la sieste la journée. Mais le travail est véritablement une manière de réhabiliter la sieste en journée.
Alors oui, on peut dire qu'il y a une réhabilitation de la sieste avec le travail nocturne qui se développe de plus en plus. Si ce n'est que si on travaille la nuit, à ce moment-là, on va plutôt avoir un sommeil diurne et donc pas forcément l'associer à une sieste. Mais par contre, effectivement, on peut amener à avoir un sommeil un petit peu plus difficile si on a terminé un peu plus tard que lorsqu'on avait des travaux dans les champs. Donc ça a pu effectivement amener à repenser la sieste. Alors, bien entendu, la sieste, on l'avait aussi, on a quelques sources quand même, parce que je ne les ai pas citées tout à l'heure, mais il y a des grands propriétaires déjà au 19e siècle qui, lors des moissons, avaient laissé toute latitude aux paysans après, quand ils avaient commencé très tôt pour faire une petite sieste après le midi, où on a quelques descriptions littéraires, André Theurier notamment, qui a décrit une ville, Saint-Clément, qui était tout à fait endormie après, en pleine canicule. Ils utilisent le terme canicule, des fortes, très très fortes chaleurs. On est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Donc bien entendu, ça a redéfini. Et l'industrialisation, avec le fait qu'on puisse travailler de plus en plus de nuit, associée à une amélioration des lumières artificielles, bouleverse complètement les pratiques du sommeil. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'évoquais la définition d'une culture du sommeil, d'ancien régime, mais il fallait trouver une date à peu près, enfin une période à laquelle où il y avait un changement radical. C'est bien dans cette période-là, du milieu du 19e siècle, où à ce moment-là, le travail de nuit commence à se développer. Comment ça se développait ? On ne peut plus conserver avec la même assiduité les discours qui interdisent les activités nocturnes.
Alors, vous m'avez reprise, Guillaume Garnier, parce que je vous ai dit, la révolution industrielle revalorise la sieste, et vous m'avez dit sieste, je ne sais pas, sommeil diurne, en tout cas. Ce qui veut bien dire, en fait, qu'on revient à cette question que je vous avais posée, à savoir est-ce que la sieste est véritablement considérée comme du sommeil, c'est-à-dire comme un temps de récupération, ou alors justement comme un temps en plus, un temps un peu en surplus, un moment de repos qui ne fait pas partie, en fait, des règles à suivre pour être en bonne santé. Il y a quand même une distinction en fait entre ces deux termes, entre sommeil diurne et sieste. Les deux ne sont pas forcément identifiables.
Non, pas du tout. Il faut que la sieste, ça soit sur un temps court. Au-delà de 1 à 2 heures, dans les traités que j'ai consultés, on n'est plus sur un temps court, on n'est plus sur une sieste, on n'est plus sur une méridienne, on est vraiment sur un sommeil diurne. Et donc là, le sommeil diurne, en fait, il prend la place du sommeil nocturne, c'est-à-dire que le temps de sommeil, en définitive, il doit être pris à sa juste mesure pour pouvoir répondre à l'objectif de refaire les forces du corps. En gros, c'est ça, l'objectif central. Et on veut absolument qu'il soit de nuit sur cette période-là. Mais exceptionnellement, il peut être de jour. Et à ce moment-là, on est bien sur un sommeil diurne qui peut avoir la même durée qu'un sommeil nocturne. Et on distingue bien les deux. La sieste est vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, un temps supplémentaire de sommeil. Donc, je pense que les médecins le diraient mieux que moi pour la période la période actuelle, qui est un temps nécessaire, puis qui est de plus en plus valorisé. Pour l'époque, c'est un sommeil qui est totalement absurde, qui n'a pas existé.
Oui, qui a un temps en excès, d'où justement, comme on l'a déjà dit, était tout de suite suspect, quoi. C'est-à-dire quelque chose de l'ordre vraiment de la débauche, littéralement, quelque chose qui dépasse. J'aimerais revenir, Guillaume Garnier, sur cette idée quand même de travail la nuit. C'est-à-dire que on associe le sommeil spontanément à la nuit, mais à partir du moment où on travaille la nuit, est-ce qu'on va revaloriser aussi les autres activités nocturnes qui jusque-là étaient vues de manière tout aussi suspecte que la sieste?
Alors, on va dire légèrement et en prenant son temps tout à fait en fonction des nombres d'années tout au cours du 19e siècle. Vous avez Simone Delattre qui a travaillé sur la nuit à Paris au 19e siècle et qui montre un petit peu cette montée du noctambulisme. C'est vrai que peu à peu, on émancipe les nuits un petit peu de ces principes ecclésiastiques qui faisaient que la nuit, elle était suspecte et qu'on ne pouvait pas dormir, eh bien, peu à peu, vont se développer, vont s'instaurer, vont être acceptées des activités qui ne sont pas forcément liées au travail, des activités de sociabilité. On va repousser les heures de fermeture des cabarets, vont se développer effectivement des spectacles nocturnes, des opéras, enfin tout un tas de moments festifs, d'événements et de moments festifs qui sont liés bien entendu à cette progression de la visibilité de la nuit comme un temps aussi sur lequel on peut avoir des activités qui n'est pas totalement dangereux.
Alors, est-ce que cette revalorisation, ou en tout cas cette nouvel intérêt porté à ces activités nocturnes, est-ce que ça a tendu un petit peu à avoir un regard apaisé sur ces activités-là, c'est-à-dire à les voir de manière moins suspecte, ou au contraire, est-ce que ça a supposé un renforcement de la surveillance, à un contrôle renforcé de tout ce qui se passait la nuit et qui n'était pas de l'ordre du travail, à savoir l'éveillé, mais aussi les réunions peut-être politiques, les discussions, le fait de marcher dans la ville qui jusque-là pouvait être vu comme du vagabondage. Est-ce que c'est l'effet d'un surplus de contrôle ou au contraire d'un surplus de liberté ?
Alors oui, il y a un surplus de contrôle. Alors ça, c'est la grande problématique justement pendant très très longtemps. Depuis très très longtemps, sur les nuits des temps passés, c'est la question de la surveillance. Alors pourquoi les autorités, elles insistent autant sur le fait que la nuit Il faut dormir parce que moins on a de personnes dehors, moins on a de surveillance à effectuer. Et moins on a de surveillance, eh bien plus on peut juger que les personnes qu'on rencontre la nuit dans les rues sont des personnes suspectes. Donc ça permet un petit peu de faire le tri. Ça permet aussi de protéger les personnes qui pourraient être agressées en pleine nuit justement par des criminels, de leur dire de rester dans leur lit. Donc là, il y a un gros problème de contrôle des rues, et ça depuis très très longtemps, parce que on ne sait pas quoi faire de ce contrôle des rues, on ne sait pas qui peut l'exercer. Donc souvent, c'est à l'échelle municipale, on organise alors des périodes de guet, il y a des roulements, ça peut être des milices bourgeoises qui s'organisent au XVIe siècle notamment, et encore un petit peu au XVIIe siècle, pour surveiller les rues la nuit. Le problème, c'est que c'est pas très bien vu. Généralement, on n'arrive pas forcément à être très efficace. Et puis, peu à peu, il y en a de moins en moins qui veulent participer. Certains s'endorment. Donc, en fait, il y a une certaine inefficacité du contrôle des rues. Alors après, on va considérer qu'on peut aussi contrôler les rues en les rendant peut-être plus lisibles la nuit. C'est-à-dire qu'on essaye d'éclairer de plus en plus les nuits. Alors là, il y a un gros travail d'éclairage au XVIIIe siècle. Des rues sur la plupart des villes, en tout cas moi sur la ville de Poitiers sur laquelle j'ai étudié au XVIIIe siècle, il y a un gros travail, ça coûte très cher. Alors on éclaire surtout les rues du centre, et en se disant voilà, s'ils sont moins nombreux à surveiller les rues, en tout cas on pourra mieux les surveiller. Mais là encore, le contrôle des rues est très très difficile, parce que même les becs de gaz qui se développent au début du 19e siècle, qui sont plus efficaces, ils sont souvent cassés, donc ça a un coût pour la municipalité. Et puis certains ont réussi à passer entre les zones éclairées, dans les zones les plus noires des rues, et à ce moment-là, quand on a des témoins, puisque les archives judiciaires permettent de capter un petit peu tous ces moments, on a des témoins qui disent je l'ai vu, j'ai trouvé ça suspect parce qu'il essayait d'éviter la lumière, mais je n'ai pas pu l'identifier parce que justement ça n'éclairait pas suffisamment les rues. Donc là, il y a vraiment un gros travail de contrôle qui va devoir se renforcer, notamment, et qui va se renforcer sur la période du 19e siècle.
Donc le travail de nuit finalement enlève aux individus la liberté d'être chez eux tranquille. En fait, ça c'est pire, c'est-à-dire que ça ne revalorise même pas finalement ce moment de la journée qui jusque-là en fait nous dépossédait un peu de nos sens, nous mettait dans un état de vulnérabilité. Bien au contraire, en fait, la nuit ne nous appartient plus.
Oui, parce que la nuit, comme moment de travail, c'est plutôt pour remplir l'objectif de rentabilité. Mmh. Pendant très très longtemps, jusqu'à l'industrialisation, le travail de nuit, il était suspect, parce que comme on n'avait pas les moyens de surveiller clairement ce qui était produit, que les lumières artificielles, on avait peur qu'elles ne soient pas suffisantes, et puis qu'on profite de l'absence de lumière pour pouvoir cacher des malfaçons, ou cacher effectivement un certain nombre d'actes rapidement faits pour remplir la tâche, et à ce moment-là, on avait peur que le travail soit mal fait. Donc tout ça, ça a fait que pendant très très longtemps, on n'a pas valorisé le travail nocturne. Et donc le moment où on se met à travailler la nuit, c'est simplement en cas de rentabilité, pour pas arrêter les machines, pour pouvoir continuer à produire, sans se préoccuper à ce moment-là de la qualité de sommeil et de tout ce que ça a pu engendrer derrière. Et même en termes de rentabilité, on se développe dans les grandes villes industrielles des dortoirs qu'on loue à la nuit ou au jour, et en fait par rotation, c'est-à-dire des ouvriers qui travaillent le jour, vont louer une sorte de garni, une sorte de dortoir où ils dorment à plusieurs, puisque les familles sont pas toujours suivies tout de suite les adultes qui sont venus travailler. Donc ils vont louer ce dortoir la nuit. Et au contraire, ceux qui travaillent la nuit vont louer le même dortoir le jour. Donc on rentabilise aussi les locations.
La nuit n'en finit plus, et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, et de tout ce temps perdu, la terre, qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. J'allume une cigarette, j'ai des idées noires en tête.
Sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
Le sommeil de l'homme, c'est son bien le plus précieux. Pendant qu'il dort, un travail de récupération, de régénération s'effectue à tous les niveaux de son organisme. Nerveux, musculaire, sanguin, glandulaire, hormonal, suivant une mécanique complexe et peu connue. Il en a besoin d'ailleurs, pour résister à l'agression permanente dont il est l'objet de la part de la vie. De la part de cette vie tel qu'il s'est créé et dont il doit supporter à présent le rythme écrasant. Mais, alors que pour faire face à ce genre de vie, la période de repos et de sommeil devrait logiquement s'allonger, en fait, il la raccourcit, il la rogne. Et ce qui lui reste de sommeil, tronqué, grignoté, est encore perturbé par tout ce que la vie moderne est capable d'inventer.
Cette fois-ci, c'était une archive du 1er janvier 1963 sur les bienfaits du sommeil. On est habitué, hein, Guillaume Garnier, à ses discours sur les bienfaits du sommeil. Aujourd'hui, la sieste est d'une certaine manière acceptée, même si on n'a pas forcément les conditions matérielles pour l'effectuer. Mais justement, sur ces conditions matérielles, en fait, d'un bon ou d'un mauvais sommeil, à quel moment est apparue l'idée que pour bien dormir, eh bien, il fallait qu'on soit peut-être dans un endroit qui soit déjà un endroit intime et pas public, c'est-à-dire pas au travail, plutôt dans un lit que dans un canapé et plutôt en pyjama ou tout nu plutôt qu'habillé?
Alors, je pense que cette préoccupation, elle est plutôt contemporaine, hein, du XXe siècle, puisque la question du dormir seul dans une chambre, elle est liée à des conditions matérielles et à ceux qui le permettent. Ce qui veut dire que sur les populations de la période pré-industrielle, si je prends les masses populaires, qui représentent quand même une grande partie de la population, 65 à 70% des habitations n'ont qu'une seule pièce. Donc, au final, l'existence même de chambres, vous avez Michel Perrault qui a travaillé sur l'histoire des chambres, l'existence même des chambres, c'est pas une réalité pour beaucoup de personnes de cette époque. Et pour les personnes qui ont la capacité de s'offrir une chambre, là, bien entendu, je pense qu'on savoure les bienfaits, mais la chambre va prendre aussi une autre fonction que celle de préserver à l'intimité ou même à la qualité du sommeil, qui pourrait être assurée d'ailleurs sur une pièce commune. Mais vraiment aussi, ça va être un moment d'assurer une question de prestige. Là aussi, on a des regards très culturels sur la chambre et puis sur les pratiques matérielles un petit peu du sommeil. Donc la question de bien dormir dans un espace réservé au sommeil, c'est une préoccupation qui n'est pas forcément celle de notre époque. Vous avez Victor Hugo qui disait qu'il valait mieux avoir un bon sommeil qu'un bon lit. Et c'était surtout, je pense que ça résumait beaucoup la pensée de cette période pré-industrielle.
Alors qu'aujourd'hui, par exemple, sur la sieste, on va donner un certain nombre de conseils pour faire une bonne sieste, c'est-à-dire mettre les coudes comme ça, ne pas dépasser un certain temps, mettre la tête de cette manière-là. Il faut faire une micro-sieste de 8 minutes, mais si vous dépassez, c'est foutu. Ou alors, il faut aller jusqu'à une heure. Il faut un petit peu se couvrir les oreilles. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble, en fait, tout un dispositif pour bien dormir à la fois la nuit, mais aussi pour bien dormir le jour, si on a l'occasion de faire une sieste. Or là, ce que vous nous dites, Guillaume Garnier, c'est que dans l'histoire, cette perception-là du sommeil n'était pas du tout, ne primait pas du tout.
Non, c'est toute la différence avec nos sociétés où on a pu expérimenter, on a pu faire des études scientifiques pour essayer de repérer les meilleures façons de dormir et d'avoir les meilleurs comportements. Hein. On fait des études physiologiques et scientifiques. À cette époque, on est toujours quand même sur des préceptes, alors que l'on juge peut-être en mettant le mot entre guillemets scientifique, mais on est sur des préceptes qui permettent le bien dormir, mais qui derrière le bien dormir sous couvert de penser qu'il s'agit vraiment de faire attention au corps, sont vraiment des préceptes hérités de représentation, de volonté de contrôle. Voilà, les positions que vous évoquiez pour la sieste, on retrouve les mêmes positions qui sont prescrites dans le sommeil nocturne durant la période, mais si on regarde notamment la position du corps, on va considérer que la meilleure position, c'est peut-être sur le dos, mais la meilleure sur le côté droit. On n'appuie pas sur l'estomac ni quoi que ce soit. Mm-hmm. Il y a quelque chose de médical derrière, mais aussi médicalement, on va vous dire que le ventre, c'est largement répréhensible parce que on appuie sur les aliments et on va se réveiller. Et en plus d'appuyer sur le ventre, on associe ça, vous savez, à des figures cauchemardesques un petit peu qui pouvaient apparaître puisque ça faisait considérer qu'à l'époque les cauchemars ça pouvait être des petites figures, des incubes ou des succubes qui vous appuyaient sur le ventre la nuit.
Ah non, je savais pas. Donc voilà, dès qu'on appuie sur le quand on dort sur le ventre, c'est une manière en fait de réveiller ses esprits, c'est ça?
En gros, ça nous rappelle ces esprits qui étaient là, qui pouvaient chevaucher le corps comme ça la nuit et faire naître chez nous des manifestations d'images cauchemardesques. Mais derrière ça, on peut lire aussi et surtout que le ventre, c'est répréhensible parce que même si le corps, il faut absolument le couvrir la nuit, alors le couvrir non pas uniquement pour se préserver du froid, mais pour se préserver des yeux des autres personnes qui pourraient en profiter pour regarder, donc il faut couvrir le corps. Mais si on se met sur le ventre, c'est aussi couvrir tout acte d'onanisme, c'est la grande préoccupation du 18e et 19e siècle, c'est les risques de pollution nocturne, onanisme, et ça, on retrouve clairement et rappelé dans pratiquement tous les traités de médecine et traités de civilité, on ne dort pas sur le ventre à cause de ça. Et pourtant, certaines personnes aiment dormir sur le ventre.
Donc il y a quand même une manière d'interférer dans des, on pourrait dire, des comportements en fait qui seraient naturels ou même spontanés ou juste de goût en fait, de préférence, de dormir sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Dormir habillé, on peut le comprendre parce que s'il n'y avait pas de pièce, s'il n'y avait pas de chambre dédiée au sommeil ou de moment pour se replier dans l'intimité, il fallait forcément être habillé. Mais cette manière en fait d'interférer nous montre bien en fait que qu'il s'agisse de sommeil en journée, la nuit ou de sieste, ne laissait aucune place en fait à une forme d'individualité, si on peut dire.
Non, c'est, il n'y a pas d'individualité. Alors là encore, avec toutes les nuances qui sont les nôtres, c'est-à-dire dans les discours comme ils sont présentés, il y a des discours qui sont très très largement partagés, qui sont reproduits justement de pratiques qu'il faudrait, hein, on dit bien, enfin pas qu'il faudrait, qu'il faut mettre absolument en œuvre. Après, il n'y a pas de police du sommeil de cette époque. Donc, dans quelle mesure ces traités de civilité qui sont lus, surtout par des aristocrates...
Sont-ils suivis ou pas ?
Voilà. Ouais. Comment ils sont suivis par les masses populaires ? Alors, on peut penser que lors de certains sermons, qui sont de l'ordre de l'oralité, hein, bien entendu, lors des messes, on ait pu transmettre un certain nombre d'informations. Ça a pu se transmettre aussi par le bien, effectivement, des discours des curés à d'autres moments. Donc, bien entendu, il y a les masses populaires ont pu incorporer à un moment donné tous ces discours. Mais c'est vrai que, d'une manière globale, on laisse peu le hasard et on laisse peu l'envie des corps à aller comme ils le souhaitent dans la literie.
Et qu'en est-il de cette pratique qu'on appelle le sommeil coupé ou segmenté ou biphasé, c'est-à-dire en fait qu'une nuit de 7 heures est coupée en deux blocs de 3h30 et 3h30, par exemple, si on dort 7 heures. Et donc, entre ces deux périodes de sommeil, il y a une période d'éveil pendant la nuit. Est-ce que ça, c'est une pratique qui était vraiment courante ?
Alors, cette pratique, elle a été développée surtout par un historien américain, Roger Kirsch, qui a travaillé sur les nuits des temps passés avec la même périodisation à peu près que la mienne, c'est-à-dire période pré-industrielle. Alors, pour les anglo-saxons, période pré-industrielle, elle s'arrêterait à peu près milieu 18e siècle, parce qu'il a surtout travaillé sur des sources anglo-saxonnes. Et selon lui, effectivement, il existerait, un sommeil segmenté, biphasique, ça dépend comment on le traduit, qui aurait été largement partagé par des populations pendant très très longtemps et qui aurait disparu avec l'industrialisation pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, notamment l'idée de lumière artificielle qui a permis d'avoir d'autres, et puis l'industrialisation qui a permis d'avoir d'autres comportements. Et donc il a consulté un certain nombre de sources, alors surtout des sources littéraires, quelques récits, quelques égo-documents qui sont plutôt basés sur l'Angleterre, dans lesquels des particuliers faisaient encore état de leur... Alors, généralement, ils utilisaient le terme de premier sommeil. Ils disaient qu'ils avaient un premier sommeil, avec un temps entrecoupé de réveil, d'éveil, pendant lequel ils pouvaient avoir des différentes activités, méditation, lecture, vider des pots de nuit, quelque chose de très, très matériel.
Vérifier comment vont les bêtes dehors si on est, par exemple, paysan.
Oui, exactement. Une sorte, en fait, même d'ailleurs, de réflexe préhistorique, c'est-à-dire s'assurer que on est encore vivant, c'est-à-dire que voilà, d'avoir une sorte de sommeil en éveil, d'avoir quand même un petit peu de réouvrir ses sens à un moment donné. Et alors lui, il utilise certaines sources qui font état effectivement de soit de période d'éveil, soit de premier sommeil. Du côté de la France, et notamment moi j'ai travaillé sur des archives judiciaires parce que le gros problème, ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est de trouver des sources qui permettent de parler du sommeil des masses populaires, parce que ce sont des personnes qui ont peu écrit. Et puis bon, tout ce qui est matériel qu'on a ne permet pas de connaître les pratiques. Et donc sur les archives judiciaires, si on s'intéresse un petit peu à tout ce qui s'est passé la nuit, les moments où il y a eu des crimes, des vols nocturnes, on s'intéresse pas forcément à la criminalité elle-même, mais je lisais les témoignages uniquement des gens qui disaient avoir entendu ou ne pas entendu quelque chose pendant ce qui se passait. Et on a effectivement quelques personnes qui signalent être dans leur premier sommeil. Donc ça, c'est une réalité. Oui. Ils utilisent l'expression « j'étais dans mon premier sommeil ». Alors, utiliser l'expression pouvait être aussi utilisé « j'étais dans mes premières heures du sommeil ». Ça ne veut pas dire que j'étais uniquement dans une phase où j'allais me réveiller à un moment donné. Donc ça, c'est un petit peu la limite de l'expression. Et puis d'autres personnes qui témoignaient clairement face à un officier de police, face à un préfet, qui disaient « voilà, il était 1h du matin et j'étais en train de vider mon pot de nuit ou j'étais en train de faire ceci », sans que ça soit jugé comme suspect. Donc là encore, on a quelques sources qui peuvent aller dans ce sens-là. Après, les traités de médecine français du 18e et 19e siècle n'en font pas forcément état. Moi, j'en ai pas vu beaucoup qui faisaient état de ce temps. Donc moi, je serais un peu plus mitigé sur la généralisation de cet aspect-là, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ça a peut-être disparu plus tôt que la période qu'on le pense.
Donc vous êtes mitigé aussi sur le fait qu'on ait un sommeil segmenté qui ait pu justifier en tout cas dans l'histoire et à la période sur laquelle vous travaillez les siestes. Et justement, pour revenir quand même à notre sujet sur qui est aujourd'hui la sieste, parfois on dort la journée parce qu'on a eu une nuit blanche et c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Et cette nuit blanche, ça peut être dû au travail, à la fête, mais aussi à l'insomnie. Et j'aimerais qu'on écoute tout de suite la voix d'un célèbre insomniaque.
La vie était simple. Les gens passent la journée, le travail, sont fatigués. Ensuite, ils se couchent, ils se réveillent et ils commencent une autre journée. Et l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide au milieu de la nuit, à n'importe quel moment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est le même processus, c'est une sorte de temps interminable. La vie supportable à cause de la discontinuité. au fond, pourquoi on dort, on dort pour, non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Alors, à 8h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8h du soir, n'est-ce pas, maintenant veille, et toute la perspective sur les choses change nécessairement. Moi, je crois que si je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais été dupe de cette duperie, c'est aussi à cause de ça. Mais on a un autre sentiment du temps. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas.
C'était la voix d'Émile Cioran qui a beaucoup souffert d'insomnie et qui a cette très belle phrase qui dit que qui parle de ce temps qui ne passe pas. Et effectivement, le sommeil, qu'il s'agisse d'un sommeil nocturne, diurne et donc aussi de la sieste, est une manière de rompre avec la journée et de marquer des temps. De marquer des temps, de marquer une progression, ce que ne permet pas, par exemple, une nuit blanche non plus, qu'elle soit de l'insomnie, comme dans le cas de Émile Cioran, ou de fête, ou de travail. Est-ce que là, ici, Guillaume Garnier, on peut avoir une manière de concevoir sous un nouveau jour la sieste, à savoir dès lors qu'il y a aussi un trouble du sommeil, dès lors aussi qu'on a une conception du temps qui est différente?
Alors oui, dès lors où on a un trouble du sommeil ou lorsqu'on est malade, la sieste est autorisée. Alors on n'utilise pas le mot sieste, hein, puisque vraiment la sieste est connotée
sommeil diurne.
Voilà, on utilise un sommeil diurne ou un temps de repos, hein, clairement, même si on s'endort, on peut dormir de jour, hein, c'est plutôt évoqué comme ça, parce que on estime voilà que selon certaines maladies, que lorsqu'il faut se faire soigner, lorsqu'on a voilà des pathologies, de la fièvre, on estime qu'on peut dormir de jour, et ça, les médecins sont clairs là-dessus. L'insomnie, on retrouve exactement les mêmes descriptions chez des contemporains du XVIIIe siècle qui ont été frappés par l'insomnie. Là, c'est vraiment la même chose parce que Cioran, tout à l'heure, il évoque un petit peu l'idée de désocialisation aussi. Mm-hmm. Il n'y a plus ces marqueurs de temps. Et ça, c'est clair que il y a quelque chose qui est largement partagé, c'est que le sommeil, c'est un bienfait. Ça, quel que soit le milieu social mm-hmm. où on se retrouve, il est universel, ça frappe tout le monde, le sommeil. C'est un bienfait. Et puis, par contre, quand on en est privé, là, derrière cette idée, il y a quand même, certains vont considérer, même certains médecins qui témoignent, comme le pire des maux possibles. Hein. Je cite des médecins qu'on a pu relire. Et notamment, je m'étais intéressé à une aristocrate, hein, Madame Dudéfant, qui était une insomniaque, qui nous a laissé beaucoup de lettres, qui a laissé beaucoup de lettres dans lesquelles elle raconte ses moments d'insomnie. Hein, et elle a tout essayé, elle le dit clairement, que c'est une énorme souffrance pour elle, puisqu'elle ne réussit pas à dormir 2-3 heures maximum par nuit. Elle dit qu'elle est fatiguée, que ça ne lui permet pas, souvent elle s'excuse de ne pas pouvoir aller visiter tel ou tel ami parce que justement elle est trop fatiguée, et elle parle clairement de désocialisation derrière ça. Et le souci, c'est que, alors déjà, on a des difficultés de nos jours pour pouvoir soigner les insomnies, mais alors à cette époque, on a beau chercher dans tous les sens, essayer de soigner l'insomnie. Alors déjà, il faut identifier quelle est l'insomnie. Est-ce que c'est une insomnie qui est ponctuelle? Donc à ce moment-là, on revient à des préceptes de mœurs, parce qu'on estime que si c'est une fois de temps en temps, c'est parce qu'on a perdu ses habitudes de sommeil. Donc il s'agit tout simplement de se recoucher à des heures fixes et puis peut-être d'arrêter ce qui nous amenait à dormir un petit peu plus tard, et à ce moment-là d'avoir un temps de sommeil saccadé. Et puis après, on a vraiment la grosse insomnie, celle qu'on réussit pas à expliquer. Alors dans la plupart des cas, on l'associe à la mélancolie, à des phénomènes de dépression. Mmh. Et dans ces cas-là, on est bien embêté parce que changer de régime de santé, Madame Dudéfant a tout essayé, c'est-à-dire manger moins de viande, boire moins de liqueur le soir, d'avoir un régime de santé beaucoup plus allégé au moment du sommeil, des temps qui précèdent le sommeil, elle ne réussit pas. Et puis, la dernière possibilité qui est évoquée dans les traités de médecine, c'est la prise d'opium. C'est la prise d'opium. Avec le gros problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment bien le doser. Donc, comme on ne sait pas bien doser le grammage, on s'est retrouvé. Enfin, les médecins se sont retrouvés avec des surdosages, bien oui. entendu, ou des sous-dosages qui n'étaient pas efficaces. Donc, ils le déconseillent. Hein, ils le disent pour les enfants, parce que les enfants peuvent être insomniaques. Ils disent pas du tout pour les enfants. Mais c'est la seule piste vraiment réel que l'on a hein, jusqu'au milieu du XIXe siècle hein, pour essayer de soigner les insomnies.
Ce qui est frappant, Guillaume Garnier, c'est que cette question en fait, de la sieste et du sommeil nous laisse quand même face à ce mystère. Que se passe-t-il quand on dort ? C'est-à-dire que pourquoi tout à coup, en fait, le sommeil, ça marche ? Pourquoi tout à coup, avec la sieste, c'est qu'on a envie de dormir ? Et pourquoi certains, en fait, souffrent au contraire de troubles du sommeil ? Et est-ce que cette question-là, à travers vos travaux, vous avez pu un petit peu l'éclairer ? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on dort ? Depuis tout à l'heure, on parle d'individus qui sont en sécurité, ne vont pas poser de problème, en fait, dans les lieux publics, ne seront pas, en fait, des individus à surveiller. Mais qu'est-ce qu'on dit de ce sommeil en tant que tel ?
Alors, c'est la grande question. C'est-à-dire que c'est une grande question médicale. Qu'est-ce que c'est que le sommeil ? Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, on s'appuie sur des discours, jusqu'aux lumières, un petit peu des discours qui sont hérités de l'Antiquité. Où je vous parlais d'esprits animaux, c'est-à-dire des petits êtres qui seraient à l'intérieur du corps hein, pour aller très très vite et qui seraient en activité la journée, qui auraient besoin de se reposer et de se réanimer un petit peu pendant la nuit. Et puis après, on va parler de fibrilles nerveuses. On va changer de terminologie un petit peu, mais toujours hein, quelque chose qui circulerait, qui serait commandé, on va de plus en plus dire, par le cerveau. Mais en plus de ça, il se pose une autre question, c'est que pendant le sommeil, quelle est la place de la pensée, quelle est la place de l'âme ? Mm-hmm. Parce que justement, on parle de sommeil depuis tout à l'heure, mais le sommeil, c'est aussi le moment où on rêve, où on a des cauchemars.
Où on a des rêveries hein, aussi pendant la sieste, par exemple.
Ou pendant la sieste, on a des rêveries. Et donc, à ce moment-là, quand le corps se repose, eh bien, là, ça commence à être compliqué à expliquer comment ça se fait que l'âme, elle, ou enfin, en tout cas la pensée, hein, à l'époque, on parle surtout d'âme, ou l'esprit, comme vous voulez, comment ça se fait que lui ne se repose pas ? Et là, il y a des grands débats sur il se repose un petit peu, pas du tout, ou au contraire, il est toujours en activité. Et ça, c'est quelque chose qui va poser énormément de débats, et notamment, on a parlé d'un trouble du sommeil qui est l'insomnie, mais il y en a un autre qui est celui du somnambulisme, alors qui là est plus attaché à un sommeil diurne et qui peut moins se manifester pour les insomnies, mais somnambulisme, on a encore des activités physiques, c'est-à-dire qu'on dort, mais en même temps, on bouge. Et alors là, ça, c'est la grande question, comment on fait ? Comment ça se fait qu'on bouge alors qu'on explique le sommeil par une interruption des sens ?
Merci beaucoup Guillaume Garnier. On va s'arrêter sur cette idée de somnambulisme et sur ce mystère du sommeil. De vous, on peut lire L'oubli des peines, une histoire du sommeil 1700-1850. C'est paru aux éditions aux presses universitaires de Rennes. Et puis bientôt, on pourra vous lire car vous êtes en train de diriger un ouvrage collectif sur les nuits blanches. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de Sans oser le demander, Anaïs Sisbert, Marie-Lise de Saint-Salvi qui a eu l'idée géniale de cette chanson. Évidemment, vous avez reconnu, c'est Les Démons de minuit. Il y a aussi dans l'équipe Gwendoline Troiano, Cyril Marchand, Lord à l'Est, réalisation Lisco, mais Louise André, prise de son Luc Affiné et pour le duplex depuis Poitiers, Adrien Trémouille. On se retrouve sur les réseaux Twitter et Instagram et bien sûr sur les sites de France Culture à la page Sans oser le demander ou encore sur l'application Radio France.